Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, essentiellement, je suppose, à cause du baptême de Louise et d'Emma, que nous allons avoir la joie de célébrer tout à l'heure. Je commence donc, comme certains, et vous êtes assez nombreux, j'ai l'impression, ne sont pas trop familiers de nos pratiques. Eh bien, je vous explique comment ça fonctionne, hein, toutes ces petites choses que vous avez prises à l'entrée. Donc, vous avez compris que le foyer de l'âme est un lieu, vous l'avez sûrement déjà compris, qui incite à la réflexion. Et donc, la première chose, c'est un exercice, justement, de réflexion. Donc, vous avez une feuille de culte. Et sur cette feuille de culte, la grande feuille blanche que vous avez eue, elle vous donne tout le déroulé du culte. Et vous voyez qu'il y a marqué à certains moments en caractère gras « spontané » et à d'autres moments « quantique ». Les spontanés se trouvent dans ce petit recueil. Alors, ça veut dire qu'en fait, on a des listes de spontanés selon la période. Et en ce moment, nous sommes dans le temps de la Passion. Ça commence à la page 8. Donc, vous pouvez ouvrir votre petit recueil à la page 8 et les spontanés se suivront tout naturellement quand tu auras spontané. Sur la feuille de culte, j'ai bien mis le numéro des pages et le début de chaque spontané, donc je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais voilà qu'il y a aussi écrit « quantique » et nous en avons 5 aujourd'hui parce que c'est un culte avec baptême et le culte des rameaux, nous en avons 5. Et donc ils sont affichés aussi sur les panneaux pour les gens qui ont l'habitude de regarder les panneaux. Et puis ces cantiques, eux, se trouvent dans le livre rouge que vous avez pris là. Donc vous pouvez déjà, parce qu'on commencera bientôt, on chantera bientôt le cantique 242, donc vous pouvez déjà ouvrir le livre au cantique 242. Là, c'est pas trop difficile, ça se suit. Donc ça devrait aller. Mais, pardon ? Voilà, exactement. Comment ça, quelle exception ? Vas-y, quelle exception ? Alors, il y a en plus, effectivement, une exception. Je l'ai marquée sur la feuille. Juste après le baptême, nous chanterons le cantique 420. Et celui-ci, il se trouve à la fin du livret bleu. Tout à fait à la fin, on a rajouté quelques cantiques qui ne se trouvaient pas dans le livre rouge. Voilà, ça y est, vous suivez ? Ça fait rien, je vous le redirai. Et donc, le cantique 420, comme vous le trouverez, qui s'appelle « Seigneur, dirige et sanctifie », se trouvera à la fin du livret bleu. Ça commence très fort, Jérôme, c'est pas la peine de rire. Voilà, donc vous avez à peu près compris comment le culte va se dérouler. Vous avez compris aussi que vous vous trouvez dans une communauté qui est heureuse de vous accueillir et qui est joyeuse et libre. Frères et sœurs, nous entrons dans la joie du culte. Nous avons souvent tant de mal à faire trêve en nous-mêmes, même quand nous sommes jeunes, surtout. Quand nous sommes jeunes, nous remplissons notre temps comme une armoire. Nous entassons nos années sans quelquefois prendre le temps de goûter la beauté du présent. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce matin, le culte vient faire renaître en nous le désir et l'attente. C'est un temps où Dieu nous précède, nous a invités. Et il nous invite encore au calme et à l'écoute. La grâce et la paix nous sont données. Nous entrons dans ce culte où sa parole, la parole de Dieu, ouvre à nouveau un espace dans nos vies, un espace pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la louange et de la paix. Le temps de la joie en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et donc à prendre dans le petit livret bleu le spontané numéro 8, page 8.
Ton
et nous restons debout pour louer le Seigneur. Toi, Seigneur, tu es celui qui travaille en nous. Et sans toi, que pourrions-nous faire? Tu es celui qui repose en nous. Et hors de toi, comment trouver la vraie paix? Tu es aussi celui qui se tait. Et de ton silence, nous avons tant à apprendre. Tu es surtout celui qui parle en nous. Et sans ta parole, quel sens aurait notre parole, ce que nous disons? Je vous propose d'invoquer la présence du Seigneur avec le cantique 242 que vous trouverez donc, on va prendre le temps de le trouver, dans le livre rouge « Nos cœurs te chantent ». Je vous invite à vous asseoir. Et je vous invite à préparer donc le spontané page 9. Unissons-nous pour entendre la volonté de Dieu. Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous entrons dans la... Ça va le son ? Nous entrons dans la liturgie de baptême. En protestantisme, il y a deux sacrements, la Sainte Cène et le baptême. Ces deux sacrements, même s'ils sont signifiés par un pasteur ou en l'occurrence une chargée de mission pastorale, sont avant tout des actes publics et communautaires. C'est pourquoi ils sont célébrés au cours du culte dominical. En assistant à ces baptêmes, vous y participez. Nous allons les célébrer ensemble, ce matin, selon la liturgie proposée par l'Église protestante unie de France. Avec l'accord de leurs parents, Louise et Emma ont demandé à recevoir le baptême. Pour Emma, qui a 12 ans, mais aussi pour Louise, qui en aura bientôt 7, c'est ça ? Il s'agit d'un choix personnel et réfléchi, qu'elles auront bien sûr l'une et l'autre la possibilité de confirmer plus tard, mais que l'Église accueille dès aujourd'hui avec joie, en obéissant à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, leurs parents ont préparé une petite déclaration que Cécile va nous lire.
Nous sommes heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour les baptêmes de nos deux filles, Emma et Louise, qui ont toutes deux souhaité faire cette démarche personnelle. Nous fréquentions auparavant une autre paroisse dans laquelle Emma avait été présentée à l'âge d'un an. Puis nous avons connu le foyer de l'âme pendant les années de louveteau d'Emma. Nous apprécions cette paroisse pour son dynamisme, son encouragement à la réflexion et son ouverture d'esprit. Emma et Louise ont fait leur préparation au baptême cette année avec Catherine et Emma connaît déjà l'école biblique. Nous sommes heureux de leur démarche personnelle qui rejoint notre propre itinéraire spirituel et espérons qu'elles souhaiteront l'une et l'autre suivre le catéchisme et confirmer cet engagement en temps voulu.
Louise, Emma, vous allez être baptisée, vous pouvez rester à vos places pour le moment, vous allez être baptisée au nom du Père qui vous a donné le souffle de vie, au nom du Fils Jésus-Christ, présent en nous et parmi nous, qui vous appelle à lui répondre et à le servir, et au nom du Saint-Esprit qui vous accompagnera et vous permettra de vivre dans la foi, l'espérance et l'amour. En effet, si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Chaque jour, notre propre baptême peut nous rappeler que nous dépendons de lui seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Assurés donc de cet amour de Dieu en Jésus-Christ, nous allons nous unir dans la prière d'humilité et nous la conclurons ensemble par le spontané, page 10. Père, un jour, nous avons été baptisés. Pardonne-nous lorsque nous l'oublions. Nous avons été baptisés en ton nom. Mais trop souvent, nous oublions ce qui nous relie à toi. Nous oublions tout simplement de te faire confiance. Nous comptons sur nos propres forces et souvent, lorsque nous constatons notre faiblesse, nous perdons courage. Nous avons été baptisés au nom de Jésus, notre frère, mais trop souvent nous oublions le sens du mot fraternité. et nous n'aimons pas toujours assez notre prochain. Nous le jugeons au lieu d'essayer de le comprendre. Pardonne-nous, pardonne nos moments d'égoïsme et d'indifférence. Aide-nous à penser à autrui avant de penser à nous-mêmes. Nous avons été baptisés au nom de l'esprit de confiance et de joie, mais trop souvent, nous nous laissons envahir par l'inquiétude et les soucis. Pardonne-nous, aide-nous à retrouver la paix et à porter les fruits de ton amour. Nous t'en prions, Père, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans la paix et dans le bonheur de te servir. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon de Dieu. Alors, je voudrais en profiter pour le dire tout de suite. Vous allez être invités à rester debout un certain temps, et en particulier pendant les baptêmes. Quand je dirais « je vous invite à rester debout » ou à vous lever, il est évident que les personnes qui, pour quelque raison que ce soit, auraient du mal à rester debout, sont invitées, elles, à rester assises. Voilà. C'est une parole que nous pouvons entendre en toute confiance, une parole qui nous donne le pardon et la paix. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a en lui la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous pouvons chanter notre reconnaissance avec le spontané page 11. Je vous invite à rester debout. Nous avons choisi comme confession de foi le texte qu'Emma a rédigé et qu'elle va nous lire pour son baptême et que vous pouvez donc suivre sur la feuille de culte.
Je demande le baptême car je crois en Dieu. Je sais qu'il m'aime et j'ai envie qu'il continue d'être présent dans ma vie. Pour moi, être chrétienne, c'est croire que Dieu, que, C'est croire que Dieu a accompagné Jésus et qu'il l'accompagne toujours. Jésus nous accompagne tous et c'est lui qui transmet l'amour de Dieu à tous les êtres humains. Amen.
Nous prenons le spontané, page 12, « Ô Jésus qui m'aime ». Vous pouvez déjà préparer le cantique 420 dans ce recueil et le mettre de côté. Je vous invite à rester debout, donc, sauf ceux qui restent assis, pour manifester votre participation au baptême. Louise, est-ce que tu veux bien venir avec ton parrain et ta marraine ? Louise, qu'est-ce que tu demandes ?
D'être baptisée.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être baptisée ?
D'aimer Dieu.
Et est-ce que tu penses que lui t'aime aussi ?
Oui.
Le baptême que tu vas recevoir est le signe de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, pour toi et pour tous les hommes. Louise, pour nous tous et pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils Jésus, le Christ, pour que nous l'aimions et croyions en lui.
Louise, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désormais, pour toi aussi, cette parole est vraie. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu.
Emma, approche-toi s'il te plaît avec ton parrain et ta marraine. Emma, tu nous as dit tout à l'heure, avec tes mots, très beau, ce que tu croyais. Emma, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Emma, comme Louise nous l'a dit avec ses mots à elle, le baptême est le signe de la grâce, cette grâce que Dieu offre à tous les hommes, à tous les humains, par Jésus-Christ, pour qu'ils croient en lui et qu'ils l'aiment. Mes amis, frères et sœurs, nous avons baptisé Louise et Emma. Et par ces baptêmes, nous attestons qu'elles sont enfants de Dieu. Elles sont ici, chez elles. Écoutez toutes les deux, au lieu de vous égoutter. Elles sont ici, chez elles. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous le resterez dans les années à venir. Vous leur donnerez, ainsi qu'à leurs parents, le soutien de votre propre foi et de votre amitié. Vous serez ainsi, pour elles, des témoins de l'amour de Dieu. Cet amour dont elles-mêmes, chacune à sa manière, vient de témoigner. Aucune contrainte ne pourra les retenir dans la communauté chrétienne. Et si l'une ou l'autre décidait de s'en séparer, elle y aurait toujours sa place et pourrait la retrouver. Ce sera votre joie, et la mienne même de loin, qu'Emma, puis Louise, confirme un jour les engagements du baptême qu'elle a reçu aujourd'hui. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te disons notre reconnaissance pour Louise et Emma qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Nous partageons leur joie et celle de leur famille. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 420. Seigneur, dirige et sanctifie. Je vous invite à vous asseoir. Alors nous allons entendre deux lectures bibliques, deux textes très connus l'un et l'autre. Donc je vais les introduire très rapidement. Le premier est une prophétie, ou en tout cas un poème attribué au prophète Zacharie. Un prophète probablement né en exil, pendant l'exil à Babylone, qui revient et qui prêche pour la reconstruction du temple. Alors au début de Zacharie, dans les 8 premiers chapitres, il a de magnifiques visions, qui ont d'ailleurs beaucoup inspiré l'Apocalypse de Jean. Mais à partir du chapitre 9, ce qu'on va entendre, c'est peut-être même un autre Zacharie qui prend la parole, tellement le texte est différent. En tout cas, il annonce la paix et même la venue du roi de la paix. Et nous allons entendre que ce roi se conduit d'une manière pour le moins inhabituelle. Ce texte, évidemment, a fortement contribué à alimenter dans les deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ, a alimenté ce mouvement spirituel qu'on appelle aujourd'hui l'attente messianique, l'attente du Messie. Je traduis pour les jeunes. Ces juifs, très croyants, qui attendaient le Messie et qui l'imaginaient déjà un peu comme ce roi dont parle Zacharie. Et ce texte d'ailleurs, ce texte de Zacharie, on en a retrouvé des fragments à Qumran, dans les manuscrits de la Mer Morte. Et on sait aussi qu'il était traduit, bien sûr, dans la Bible grecque. Et justement, dans le deuxième texte, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, on comprend pourquoi ce texte de Zacharie a été tellement important pour les chrétiens, dès le début en fait, dès le moment où les évangiles ont été écrits. Alors, avant d'entendre les lectures bibliques, nous avons l'habitude de prier. Nous prions pour que les Écritures deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. Dieu notre Père, rafraîchis notre mémoire à ta source. Ouvre nos oreilles à cette parole d'évangile. Ouvre nos cœurs au mystère de ton offrande. Apprends-nous à te suivre. Ouvre nos esprits au sens de ta mort sur la croix. Amen.
Et donc au livre du prophète Zacharie, chapitre 9, nous lisons les versets 9 et 10. Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là, ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.
Je vais lire l'évangile selon Luc au chapitre 19, les versets 28 à 48. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent: « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils te laisseront pas, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repaire de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres.
Merci beaucoup aux deux lecteurs. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble le cantique 195 que vous trouverez. Il y a des gens qui l'ont même déjà préparé.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur en a besoin. À partir de cette petite phrase, je vais vous proposer de réfléchir aujourd'hui à ce moment de la vie de Jésus qu'on appelle traditionnellement les rameaux ou même, bizarrement, l'entrée triomphale à Jérusalem. Alors cet événement, nous venons d'en entendre non pas le récit, mais un récit. Puisque tous les évangiles, en fait, le racontent, et chacun le raconte d'une manière un peu semblable, mais aussi un peu différente. Mais tous les évangiles situent ce moment très peu de temps avant ce qu'on appelle la Passion. C'est-à-dire le moment où Jésus va être jugé, arrêté, jugé, condamné et crucifié. Et nous venons d'entendre que Luc, comme Marc et Matthieu, mais pas comme Jean qui fera autrement, Luc situe également cet épisode qu'on vient d'entendre, cet épisode de l'entrée du temps de Jésus à Jérusalem, juste avant, on l'a entendu aussi, Blaise nous l'a lu, celui qu'on a l'habitude d'appeler la purification du temple, ce moment tout aussi important où Jésus chasse les marchands du temple. Alors il est évidemment difficile de savoir ce qui correspond à la réalité chronologique. Pourquoi à certains moments plutôt que d'autres ? Et ne parlons pas, bien sûr, de la réalité historique. Même si, quand un épisode comme celui-ci se retrouve dans tous les évangiles, on peut penser qu'il a une réalité, et en tout cas, une origine historique. Oui. En tout cas, il n'y a peut-être pas de réalité chronologique, mais il y a une logique dans ces trois récits. Jésus arrive à Jérusalem, il se fait remarquer, et nous avons entendu que ça commence tout de suite à agacer particulièrement les pharisiens. Mais ça, c'est rien, parce que peu de temps après, il va mettre, on l'a entendu aussi, la pagaille dans le temple, insulter les marchands, et puis il commence à prêcher et les gens l'écoutent. Bref, il devient de plus en plus dangereux et il va falloir l'éliminer. Comme nous l'entendrons Vendredi Saint, si nous assistons à la liturgie d'après l'évangile de Jean à l'oratoire, comme nous l'entendrons donc Vendredi Saint, de la bouche du grand prêtre, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, Jésus arrive à Jérusalem. Jésus connaît bien les Écritures. Il cite les psaumes constamment. Il est très influencé par ce personnage d'Ésaïe qu'on retrouve dans la deuxième partie d'Ésaïe, qu'on appelle le serviteur souffrant, celui qui souffre sans rien dire, dans l'humilité, qui se laisse battre. Et on voit qu'il est aussi là très marqué par le texte de Zacharie qu'on vient d'entendre. Peut-être que quand Jésus demande à ses disciples d'aller chercher l'anon, au-delà de l'apparence magique de la situation, ça a l'air magique, hein. Les disciples, ils leur demandent et ils trouvent tout comme il leur a indiqué, c'est vrai, en tout cas c'est ce qui est dit, mais ce n'est peut-être pas du tout un hasard, peut-être que Jésus a bien l'intention d'accomplir à la lettre la prophétie de Zacharie, cette prophétie que tout le monde connaît bien à l'époque, et de toute façon c'est bien une manière pour lui de dire oui, il est le Messie annoncé par Zacharie. Le roi, juste et victorieux, pauvre, est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le Seigneur en a besoin. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois cette année, et sans doute j'aurai l'occasion prochainement, de répéter combien certaines phrases, et en particulier certaines phrases de l'évangile de Luc, ont participé à construire notre foi. Mais celle-ci, elle se trouve dans les trois premiers évangiles. Et je pense qu'elle est particulièrement importante pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi ? D'abord, c'est une phrase remplie de mystère. On entend ça et on se dit, mais pourquoi le Seigneur a besoin de cet ânon ? On ne le sait pas encore. Et c'est aussi une phrase empreinte d'autorité. C'est presque la seule fois, à ma connaissance, où Jésus lui-même utilise, pour parler de lui-même, le mot « Seigneur », « Kurios ». Il y a une autre fois, je en parlerai, mais il peut le faire, pourquoi ? Parce qu'il parle, il dit « Vous direz, le Seigneur en a besoin ». Donc il dit à ses disciples « Vous parlerez de moi comme ça ». Et c'est vrai que ses disciples parlent déjà de lui comme ça. Mais il n'empêche, c'est Jésus qui le dit. Et dans cette petite phrase, nous entendons Jésus, un Jésus qui, pour la première fois, d'une certaine manière, assume ce nom, Seigneur. Et c'est quand même dans la Bible grecque, la Bible hébraïque qui a été traduite en grec quelques siècles avant, en ce moment, au moment, peu de temps avant la vie de Jésus, c'est le moment aussi, dans cette Bible grecque, c'est le mot qui sert à désigner Dieu lui-même. Alors d'habitude, c'est les disciples qui l'appellent Seigneur. Une seule fois, donc, comme je disais, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, Jésus dira « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Mais c'est la seule fois, à part ça. Et dans la phrase qui nous intéresse, « Le Seigneur en a besoin », je trouve que l'expression est presque plus forte. D'un seul coup, c'est Jésus lui-même qui assume cette autorité. La phrase, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit à ses disciples, et du coup, elle le dit à nous aussi. Quelque chose quand même sur la nature divine de son autorité. Elle nous met devant une évidence que nous pouvons ne pas comprendre, en tout cas moi. Tant mieux si on a des moments où on a l'impression de la comprendre. Une évidence que nous ne comprenons pas, mais qui nous impressionne et qui peut même à certains moments nous donner la chair de poule, à certains moments, pour certaines personnes. Le Seigneur en a besoin. Alors aujourd'hui, c'est ce dimanche qu'on appelle traditionnellement dimanche des rameaux. Pourquoi ? À cause des rameaux, des feuillages, des branches, les feuilles de palmier. Et pour certains, nous le savons, c'est une fête qu'on célèbre en bénissant des branches de buis. Et vous rencontrerez peut-être tout à l'heure certaines personnes qui en rapportent chez eux, chez elles. Mais ce dimanche des rameaux qui précède Pâques, on lui a donné ce nom parce que dans les trois autres évangiles, quand Jésus arrive à Jérusalem, il est accueilli comme un roi, oui, on parle aussi, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'entrée triomphale à Jérusalem. Toute la foule le salue en agitant des branches de palmier. Les gens étendent les branches sur le sol devant lui pour que l'anon marche dessus. Et pourtant aujourd'hui, on n'a entendu aucun de ces mots. Palme, rameau, branche, tout simplement parce que Luc n'en parle pas. Peut-être que la scène le gêne un peu, il ne sait pas, peut-être pas très bien comment la prendre. Il n'y a pas assisté, bien sûr. Et il a eu comme source plusieurs récits. Et on le comprend un peu parce qu'en réalité, dans le texte qu'on a entendu, on n'a pas du tout l'impression d'une scène triomphale. La foule ici, ce ne sont pas les habitants de Jérusalem, c'est surtout les disciples. Alors, pas seulement les 12, hein, bien sûr, mais tous ceux qui suivent Jésus de loin, depuis longtemps. Il le dit, le texte, la foule des disciples. Il ne dit pas la foule des habitants. Ce n'est pas du tout comme dans d'autres évangiles. Alors, effectivement, ils ont l'air quand même assez nombreux. Ils crient, on les entend. Mais ça veut dire aussi que peut-être d'autres personnes voient arriver Jésus sans le saluer. Et sans doute que les habitants de Jérusalem, sans parler des pharisiens, on va le voir, ne sont pas tous follement heureux de voir arriver ce vagabond, cette espèce de prophète ambulant, avec ses amis qui font tellement de bruit, comme pour se faire remarquer, ou pour le faire remarquer, lui. Et les pharisiens en particulier tordent franchement le nez. « Maître, reprends tes disciples. » Sous-entendu, t'as vu comment ils se conduisent ? Ils crient trop fort. Ils regardent Jésus avec méfiance. Et comme je l'ai dit, ils ont bien raison de se méfier. Parce que dans très peu de temps, le soir même ou le lendemain, Jésus va venir tout casser dans le temple. Presque tout. Mais en réalité, si la scène n'est pas si triomphale que ça, c'est surtout, peut-être, à cause de l'image de Jésus lui-même. Assis sur un ânon qui peut à peine le porter Normalement, un ânon, on ne le monte pas. Voilà. Je vois ici des gens qui ont fait de l'équitation. Les poulains, les ânons, ils sont trop jeunes, c'est trop fragile pour être monté. Donc, pourquoi l'ânon ? À cause de Zacharie, bien sûr. Et Zacharie, à cause d'une ancienne tradition. Par exemple, l'onction royale donnée à Salomon l'est alors qu'il arrive monté sur une mule. Alors, mais l'ânon, certaines fois, certains rois arrivaient dans la procession monté sur un ânon, ou un âne en réalité. Mais l'ânon est signe ici de grande fragilité. Assis sur un ânon qui peut à peine le porter, avec de vieux vêtements en guise de tapis de sel. Et ses disciples ne l'ont pas habillé en roi, ils l'ont déguisé en roi. Personne n'est dupe. Tout le monde voit bien que c'est un déguisement. Alors, où est le triomphe quand on a l'air d'un faux roi ? Où est la joie quand on arrive à Jérusalem pour être crucifié ? Le Seigneur en a besoin. Alors, sur la porte du temple, j'ai punaisé deux photos. Ce sont des photos de très vieilles sculptures de Jésus assis sur l'âne. Vous pourrez jeter un coup d'œil en partant. Il y en a énormément dans tous les musées et des pays germaniques en particulier. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que la personne qui s'occupe de notre site, Isabelle, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a mis une photo du même genre dans la newsletter. Au Moyen-Âge et encore longtemps après, ces sculptures de taille humaine étaient comme celles dont j'ai mis les photos, montées sur roulettes. Et il en reste encore beaucoup. Pourquoi ? Pour pouvoir être promenées en procession, pendant que le peuple des croyants marchait derrière, rejouait la scène et chantait la citation du psaume 118 « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, on a beaucoup réfléchi sur le psaume 118 et on a vu que c'était un psaume liturgique. Donc, c'est une sorte de réappropriation de ce psaume pour faire de l'entrée de Jésus à Jérusalem une liturgie, mais peut-être aussi une parodie de liturgie. Et justement, sur son âne à roulette, eh bien, Jésus nous met un peu mal à l'aise. Non seulement il est déguisé en roi, mais il est totalement passif. Un peu comme si, après avoir longuement préparé cette entrée, on l'a entendu, il se laissait traîner. Un peu comme s'il laissait se dérouler une sorte de mise en scène. Luc nous dit que les gens étendent leurs vêtements sous les pattes de l'âne pour lui faire un tapis royal. Mais n'oublions pas que toute la scène est déjà une annonce de la passion. Dans quelques jours, Jésus, arrêté et condamné, sera de nouveau déguisé en roi, avec un tapis rouge en guise de manteau et une couronne qui lui transpercera la peau du crâne. Le Seigneur en a besoin. Oui, et nous aussi, nous avons pourtant besoin de cet ânon. Parce que je crois que grâce à cet ânon, en partie, il y a malgré tout de la joie dans ce texte. Pas forcément la joie bruyante des disciples qui s'agitent en traînant leur âne à roulette. La joie vient de la grâce qui émane de Jésus lui-même. Cette grâce qu'il va vivre dans la pauvreté et l'humilité avant de la vivre dans la souffrance et sur la croix. Car celui qui est déguisé en roi est vraiment roi. Il n'est pas roi simplement à la manière des humains. Il va le dire d'ailleurs très prochainement à Pilate. Son royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur a besoin de l'ânon faible et innocent pour manifester la fragilité et le dépouillement de son ministère. C'est ça la royauté de Jésus. C'est ainsi qu'il est roi. C'est ainsi qu'il devient Christ. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous parler de ces vieilles sculptures à roulettes. Elles n'ont l'air de rien, elles étaient peintes, mais bien sûr aujourd'hui, elles ont perdu leur couleur. Et pourtant, dans chacune d'elles, si on regarde le visage austère de Jésus, on peut retrouver la vraie joie de cette entrée à Jérusalem, parce qu'on sent que celui qui les a sculptés, ceux qui les ont sculptés, ont voulu nous communiquer le sentiment d'une véritable royauté, une royauté authentique, une royauté qui accepte la faiblesse et le ridicule. La royauté de Dieu vécue à travers notre condition humaine. Et les rares fois où nous rencontrons ce visage, nous pouvons essayer de le reconnaître. Nous pouvons essayer de nous mettre à son service et en redisant, comme nous le pouvons, les mots du psaume « Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. » Amen. C'est le moment des annonces qui concernent toutes les activités de la semaine. Et bien sûr, cette semaine, il y en a pas mal, mais si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à intervenir pour me le dire, pour le dire. Donc, demain lundi, ouverture pour l'accueil musical, comme chaque lundi en période hors vacances, de 12h30 à 14h, avec ceux qui passeront, auront le plaisir, la joie d'entendre Fred, qui sera à l'orgue demain. Demain soir, réunion des groupes œcuméniques et interreligieux pour la préparation du déjeuner et de la rencontre intercommunautaire qui aura lieu au Temple le lundi de Pentecôte, le lundi 10 juin. Donc, normalement, c'est une réunion qui concerne des personnes qui ont l'habitude de venir. Vous êtes évidemment les très bienvenus si vous souhaitez vous y joindre. C'est intéressant, c'est un événement un peu unique cette année. Donc, n'hésitez pas, ceux qui souhaiteraient se joindre à cette préparation, et même plus tard, sans avoir préparé, à la rencontre elle-même. Mardi, nous avons déplacé exceptionnellement le groupe Théopsycho, et donc qui d'habitude se réunit le vendredi soir, et pour que le plus grand nombre de personnes puissent venir. Nous nous réunissons donc mardi à 19h30 autour de l'habituel buffet et nous allons réfléchir à la notion de reniement. Ça tombe bien puisqu'on va travailler au reniement de pierre ensuite. Et là aussi, il n'y a pas besoin d'être spécialiste et même d'être forcément déjà venu pour se joindre à nous. Ça se passe au deuxième étage. Mercredi, conseil presbytéral, c'est bien ça ? Alors, jeudi et vendredi, traditionnellement, le foyer de l'âme et l'oratoire s'associent pour deux cultes du jeudi saint et du vendredi saint. Jeudi saint aura lieu donc au foyer de l'âme. Le premier de ces deux cultes communs, ce sera un culte à deux voix, avec une sainte scène à deux voix également, moi-même et la pasteur de l'oratoire du Louvre, Béatrice Cléromazir, et c'est Béatrice qui assurera la prédication jeudi saint. Vendredi, le culte aura lieu à l'oratoire, mais Béatrice a demandé de préciser que ce ne sera pas un culte au sens traditionnel du terme, ce sera une rencontre, un culte quand même, mais de méditatif à partir de lectures dialoguées de l'évangile de Jean, d'extraits chantés de la Passion selon saint Jean, et ce culte qui ne s'appellera pas un culte, mais je ne sais pas très bien comment l'appeler autrement, donc je suis en train de chercher. Voilà, j'ai reçu ce matin un mail en me disant ça ne s'appelle pas un culte. Bon. Mais ce n'est pas grave, ça durera à peu près le même temps qu'un culte. Et je ferai au cours de ce culte une méditation. Voilà, mais ça n'a pas grande importance, la terminologie. Mais je pense qu'elle veut insister pour dire simplement que ça n'aura pas une forme traditionnelle de culte. Voilà. Et donc c'est moi qui ferai la méditation qui ne s'appellera pas une prédication. Voilà. Ça, c'est vendredi 19 à 19h. Et alors, le jeudi saint et vendredi saint, ce sera à 19h. Jeudi saint ici, vendredi saint à l'oratoire du Louvre. Et enfin, bien sûr, dimanche de Pâques, dimanche 21, le culte aura lieu à 10h30. Ce sera le culte de Pâques avec Sainte-Seine. Nous aurons droit à la participation des catéchumènes qui sont donc, si jamais... Non, je ne vois pas de parents, mais ça ne fait rien... qui sont invités à être présents ici à partir de 9h30 pour préparer. Voilà. Excusez-moi pour ces annonces un petit peu longues. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. C'est donc le moment de l'offrande. C'est un moment joyeux, car l'offrande est un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir donner. Nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi. Notre Église a besoin de nos dons, et particulièrement en ce moment. Nous allons chanter pendant l'offrande, selon notre habitude, le cantique 240. Je vous invite à lever si vous arrivez à tout faire en même temps, chercher dans vos poches, tenir le recueil. Je vous invite à vous asseoir. Alors, à la fin de la prière fraternelle, nous chanterons ensemble le cantique 236, qui, comme vous allez le voir si vous ouvrez vos recueils rouges, a mis en musique les paroles du Notre Père. On laissera peut-être Fred le jouer en entier, jouer la strophe en entier une première fois, pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui souhaiteraient quand même chanter le Notre Père avec nous puissent le faire. Nous nous unissons dans la prière fraternelle. Notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce offerte à tous, signifiée ce matin à Louise et Emma. C'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour cet instant de culte, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin de savoir que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous à chaque étape les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne, dans les difficultés et les épreuves de la vie. Apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les humains que nous te demandons d'être présent. Ne permets pas que les difficultés politiques les entraînent dans la peur, la guerre, le repli identitaire, le rejet de l'autre. Seigneur, ne permets pas que nous nous égarions, sois toi-même notre force, encourage-nous de ta lumière et de ta joie. Si solitaire est notre course dans la nuit, ô Dieu, mets ta lumière en nos cœurs, ouvre-les encore toujours à l'amour fraternel. Sois toi-même notre frère. Et puisque tu es venu allumer en nous la flamme de l'espérance, c'est dans cette espérance que nous allons chanter le cantique 236, dont nous allons entendre une première fois la mélodie. vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Nous chanterons ensuite l'eau spontanée, page 13, et selon notre habitude et notre joie, nous nous rassierons pour écouter l'orgue conclure ce culte. Le royaume de Dieu vient là où des humains écoutent la voix des prophètes, la voix du Christ. Le royaume vient là où des humains misent sur lui, sur la force de l'amour sans défense. Là où des humains misent sur la faiblesse de l'annon. Le royaume devient visible sous nos mains, sous nos yeux, quand nous allons où il nous envoie et croyons à la force des actions modestes. Il nous donne la confiance et nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour lui, car il est le Dieu des promesses. Le Seigneur renouvelle en chacune et chacun de nous la grâce de notre baptême. Il nous bénit et nous garde. Il tourne vers nous sa face et nous donne sa paix. Amen.